Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 15. Nous sommes dans l'avant-dernier chapitre de l'évangile de Marc. Nous le parcourons lentement depuis longtemps. Et là, nous arrivons à vraiment quelque chose d'incroyable. C'est le dernier jour de la vie de Jésus sur terre, avant sa crucifixion. Et je vais lire les chapitres 15, les versets 1 à 15, d'accord ? Le message, je l'ai intitulé tout simplement « Jésus ou Barabbas ». Jésus ou Barabbas, je lis Marc 15 à partir du verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis. Les principaux sacrificateurs portait contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâcha un prisonnier, celui qui demandait la foule, que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit : Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit : Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Pour réviser ce que nous avons déjà vu, nous sommes au petit matin, le jour de la crucifixion de Jésus, en fait juste le soir avant. Quelques heures avant, Jésus était dans le jardin de Gethsémané avec ses disciples où il prie. Judas, vous rappelez, arrive avec plus de 600 personnes pour l'arrêter. Ils prennent Jésus et l'apportent d'abord chez Anne, puis chez Caïphe, le souverain sacrificateur en fonction à ce moment-là. Jésus subit son premier procès injuste en présence du Sanhédrin, qui conclut que Jésus est digne de mort, chapitre 14 et verset 64. Pierre, qui est présent, renie Jésus trois fois. Judas, lui, est pris de remords et va se suicider par pendaison. Ça, nous l'avons déjà tout vu. Dans Marc 15 et le verset 1, nous sommes au petit matin pour la suite des événements. Le procès de Jésus devant Ponce Pilate, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et je l'énonce en 13 points, 13 parties toutes simples, et en fait en réalisant ce matin qu'il y avait 13 points, le numéro 13, beaucoup de gens ne l'aiment pas trop, mais peut-être c'est un numéro approprié pour l'événement que nous allons voir maintenant. Alors, 13 points. Numéro 1, le procès continué. Le procès continué. Chapitre 15, verset 1, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Il est maintenant 6h ou 7h du matin. Le Sanhédrin vient d'avoir son audience avec Jésus, sa première audience. Viennent de prononcer Jésus digne de mort. Mais puisqu'ils n'ont pas le droit d'exécuter un homme, sans l'approbation des Romains, ils décident de prendre Jésus chez le gouverneur romain. Ponce Pilate, pour que celui-ci le condamne et l'exécute par peine capitale. De ce fait, il dit dans le verset 1, « Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. » Alors, question, qui est Ponce Pilate ? Alors, Ponce Pilate était le cinquième procurateur ou gouverneur de Judée. Il était très impopulaire auprès des Juifs. Ils souillaient par exemple leur lieu saint avec des symboles de dieux romains. À un moment donné, il n'a pas hésité de prendre de l'argent dans le temple pour financer des travaux publics. Il n'hésitait pas non plus à mettre des juifs qui le gênaient d'une manière ou une autre à mort. Il y a un exemple que je vais vous lire, juste un verset, dans Luc 13. Il est dit ceci. En ce moment, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Apparemment, le procurateur de Judée montait d'habitude à Jérusalem à l'occasion des grandes fêtes qui rassemblaient des multitudes juives. À ce moment-là, on ne connaît pas trop l'incident, mais selon Luc 13, 1, dans ce moment solennel, Pilate versa le sang des Galiléens, probablement dans le parvis du temple, où s'offraient d'habitude les sacrifices. Et de nouveau, nous ne connaissons pas cette raison, mais c'est un homme cruel. Ce qui est certain, c'est que dans une lettre d'Agrippa 1, que cite Philo, il est décrit, Pilate est décrit comme un homme de caractère inflexible, impitoyable et obstiné. Et Agrippa, dans sa lettre, craignait que les Juifs n'accusent Pilate auprès de l'empereur de corruption, de violence, d'outrage au peuple, de cruauté, de continuelle exécution sans jugement préalable et d'atrocité inutile. Pilate était un homme cruel, aussi profondément égoïste. Il était disposé à juger selon la justice à condition de ne subir aucun préjudice personnel. Donc c'était une justice pas vraiment juste. Il ne pensait qu'à ses intérêts personnels. C'est ce que nous allons voir dans le triste récit d'aujourd'hui. C'est intéressant de connaître la fin de la vie de Pilate. Ce sont finalement les Samaritains qui ont dénoncé la cruauté de Pilate au légat de Syrie, Vitellius, dont le procurateur de Judée dépendait. Le légat nomma un nouveau procurateur et commanda à Pilate de se rendre à Rome pour se justifier devant l'empereur. La tradition rapporte que Pilate fut banni dans la Gaule, à Vienne, sur le Rhône, et qu'il se suicida. On fait marche arrière. On est maintenant face au procès de Jésus, devant Pilate, qui était le seul à avoir l'autorité d'appliquer la peine de mort. Deux, la question posée. Verset 2, Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. Tu le dis. » Dans Matthieu 26, verset 25, il est dit ceci, « Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Vous vous rappelez lorsque Judas a dénoncé Judas ou la personne qui allait le trahir. « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Même structure. Le « tu l'as dit » veut tout simplement dire « oui ». Oui. Donc, au verset 2, Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Oui. Oui, je le suis. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Être roi des Juifs. Eh bien, être roi implique un royaume, n'est-ce pas? Alors, pour avoir la réponse complète, et aujourd'hui on va faire un petit peu de gymnastique, parce qu'il y a des textes parallèles, bien sûr, les quatre évangiles. Dans Jean 18, et le verset 34, il explique les choses. Jean 18, 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et maintenant, on reprend l'histoire. Jésus répondit, « Est-ce de moi que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif, ta nation, et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus dit ceci au verset 36 de Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » C'est intéressant ce que dit Jésus ici. Il dit que si mon royaume était terrestre, Il aurait été juste pour mes serviteurs de se battre puisque les accusations contre moi sont fausses. Il aurait été juste de prendre les armes, dit-il. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas terrestre, dit Jésus. Donc il n'est pas approprié qu'il se batte pour moi. Ce que Jésus est en train de dire, c'est-à-dire, c'est ceci. Donc, je dois mourir injustement et je l'accepte. Je continue dans Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Waouh, c'est ce que Jésus dit. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis le roi de ce royaume. Donc je ne vais pas me battre. Et il dit que celui qui cherche la vérité, écoutez bien, de manière sincère, aboutira à sa recherche avec Jésus. Car lui est la vérité. Et ça, il le dit dans Jean 14, 6, clairement. Et je vous le lis. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, pas une vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez, ça ne peut pas être plus draconien ce qu'il est en train de dire. Je répète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus dit ici dans Matthieu 18, que celui qui cherche la vérité, si tu la cherches sincèrement, tu la trouveras en nul autre que lui, car il est la vérité. C'est intéressant, dans Matthieu 7, verset 7, il dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Est-ce que tu es un chercheur de vérité aujourd'hui? Est-ce que tu t'interroges sur la vérité? Jésus te répond, il est la vérité. Continue tes recherches. Le jour viendra où tu atterriras sur Jésus, car lui seul est la vérité. C'est ce qu'il dit. Alors c'est intéressant, verset 38 de Jean 18, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ben Jésus répond dans Jean 14, « Je suis la vérité. » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Waouh. 3. Les accusations avancées. Verset 3. On est de nos retours dans Marc 15. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Alors, quelles étaient les accusations qu'on portait contre Jésus? Ils apportent Jésus devant Pilate, lui est le gouverneur, donc c'est lui à trancher, c'est lui le juge. Quelles étaient les accusations précises? Est-ce qu'on les a? De nouveau, nous devons changer de livre, aller dans Luc 23, 1 et 2. Et là, on les a. Je lis, Luc 23, 1, ils se levèrent tous, ils le conduisirent Jésus vers Pilate, ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Trois crimes. Il est accusé de trois crimes. Un, il excite notre nation à la révolte. Ils accusent Jésus d'être coupable d'insurrection. Alors, si cela était vrai, la charge était grave, car Rome ne tolérait pas ceux qui se révoltaient contre elle. Mais il n'y avait rien de plus faux. Et en fait, il y a quelque chose d'étrange avec cette accusation. Si Jésus excitait la nation à la révolte, les Juifs auraient non seulement été heureux, mais l'auraient soutenu, car même les Juifs haïssaient Rome. Quoi qu'il en soit, l'accusation était fausse. Deux, il empêchait de payer le tribut à César, ils disent. Mais de nouveau, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Vraiment n'importe quoi, parce que dans Matthieu 22, c'est l'opposé. Verset 17, « Dis-nous, on pose la question à Jésus, Qu'est-ce qui te semble? Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Alors, vous savez ce qu'il dit? Il prend une pièce, un denier, avec d'un côté l'effigie de César, et il dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Vous savez ce qu'il est en train de dire? Écoute, paye tes impôts, et ensuite rends à Dieu ce que tu lui dois. Alors, de l'accuser d'empêcher de payer le tribut à César, c'est tout simplement faux. Et troisièmement, il disait lui-même, il se disait lui-même être Christ roi. Alors de nouveau, l'accusation est grave. Si quelqu'un se disait être roi, ça veut dire qu'il y avait un deuxième roi en Israël qui était une menace intolérable pour Rome. Dans Matthieu 2,2, vous rappelez que les mages d'Orient viennent à Jérusalem, ils disent voilà, on cherche un roi, Hérode, il est tellement menacé qu'il fait tuer tous les bébés à Bethléem. Donc, Jésus se dit roi. Donc, c'est une manière de le faire tuer par Rome. Ils ne sont pas bêtes. Alors, Jésus vient de prétendre qu'il est roi. En fait, sur ce point, ils avaient tout juste. Jésus était vraiment roi. Ce n'était pas une accusation, mais une vérité. Mais Jésus avait bien précisé, oui, je suis roi, mais pas de ce monde. Je suis donc aucune menace pour Hérode ou pour un autre. Non, Jésus disait clairement qu'il était le Christ, le Messie, le roi des Juifs. Donc sur ce point, oui, c'est vrai. Mais est-ce que l'accusation est fausse? Non, elle est juste. Il est le roi des Juifs, un roi spirituel, donc aucune menace. Donc dans ce sens-là, ils avaient tort. 4. Le silence renvoyé. On est de nouveau dans Marc 15. Le silence renvoyé, et au verset 4. Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? De combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Alors, Jésus répond à la première question, es-tu roi des Juifs? Il répond oui. Donc il répond à Pilate. Mais regarde le verset 3, les principaux sacrificateurs portaient contre lui là plusieurs accusations. Donc maintenant, c'est les Juifs qui l'accusent. Et là, il ne répond pas. Il a un silence assourdissant pour Pilate. Il ne comprend pas, Pilate, comment d'un côté, une foule de personnes acharnées sont devant lui en train de l'accuser Jésus de choses graves, et que là, se tient Jésus, homme humble, doux, calme, bien que déjà ensanglanté par les coups qu'il avait déjà reçus. D'habitude, les accusés plaidaient pour leur vie. Pas Jésus. Il reste là, silencieux. Pourquoi? Pourquoi reste-t-il muet? Simple. Premièrement, il sait que ses accusations sont fausses. Son évidence est évidente. Qu'avait-il plus à dire? Mais deuxièmement, il sait que dans la souveraineté de Dieu, il doit quand même mourir aux mains de ces hommes impies. Il sait très bien qu'il y a un temps pour se défendre et un temps pour rester silencieux. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que dans chapitre 8 et le verset 31, il avait déjà prédit. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus savait exactement ce qui devait lui arriver. Et, en plus, bien que ce n'est pas mentionné explicitement ici, en fait, c'est marrant, j'écoutais Radio 74 et j'ai entendu ce point ce matin. Alors je le répète parce que j'ai trouvé vraiment intéressant, par hasard je l'ai entendu, Ésaïe 53,7, il a été maltraité, opprimé, prophétie sur Jésus, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. À un moment donné, Jésus savait qu'il devait arrêter de parler. » Alors c'est intéressant, ici c'est Pilate qui lui dit, mais tu dis rien, tu réponds rien aux Juifs qui t'accusent. Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Alors quel est le verdict préliminaire de Pilate par rapport à ce qu'il entend? C'est intéressant, au verset 14 du même chapitre, Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Il ne voit pas le mal que Jésus a fait, dont on l'accuse. Dans Jean 18, 38, Pilate leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Luc 23, 4, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Écoutez, c'est quand même remarquable. Pilate dit, il n'est pas coupable. Vous savez ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû arrêter le procès là. Non, il n'est pas coupable. J'ai le pouvoir de le relâcher. C'est fini. Il n'est pas coupable. Le procès est terminé. Mais Pilate est un homme faible et un homme lâche. Il n'a pas osé assumer ses responsabilités en tant que juge impartial. Il ne voyait aucun crime méritant la condamnation de l'homme devant lui. Il aurait dû le relâcher, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Voyez-vous, s'il refuse de condamner Jésus, il se mettait qui sur le dos? Les Juifs et le Sanhédrin. Il avait assez de conscience, du moins à cet instant-là, pour déclarer Jésus innocent, mais il n'a pas assez de conscience pour arrêter le procès. Ça, c'est horrible. Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est une leçon sur le leadership ici, on le verra tout à l'heure. 5. Hérode consulté. Là, je vous invite à aller dans Luc 23. Car il y a un événement qui se passe entre le verset 5 et 6 que Luc nous révèle. Hérode consulté. Luc 23, à partir du verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple et enseigne par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ah oui, ben lorsque Pilate entend dire que Jésus était galiléen, il a une idée géniale. Pourquoi ne pas envoyer Jésus à Hérode, qui était lui le procurateur ou le gouverneur de la Galilée? Pilate, il était le gouverneur de la Judée, en dessous. En dessus, c'était la Galilée. Là, c'était Hérode qui était là-haut. Alors, ça tombait bien. Le verset 7 de Luc 23 nous dit, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Grand coup de peau, là. Hérode est à Jérusalem, aussi en même temps. Alors il envoie Jésus à Hérode. Verset 8, lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Ah, super, tout content de voir Jésus. Pourquoi? Car depuis longtemps, il désirait le voir et à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Ben oui, Jésus était connu maintenant, il avait une immense réputation. Il s'est dit, ah, trop bien, je veux voir Jésus. Et là, tac, il va pouvoir faire un miracle pour moi. Devant moi, c'est ce que j'ai envie de voir le miracle. Et il lui adressait beaucoup de questions, verset 9 de Luc, mais Jésus ne lui répondit rien. Alors pourquoi Jésus reste-t-il aussi silencieux devant Hérode? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas être un numéro de cirque pour un homme qui n'avait aucune envie à son égard, sauf de le voir faire un miracle. Et on est encore dans Luc 23, verset 10. Regardez qui accompagne Jésus chez Hérode. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Et pourquoi avec violence? Pourquoi est-ce que le ton monte ici? Parce que les Juifs se rendent compte que Pilate doute sur la culpabilité de Jésus et qu'il risque de ne pas le condamner. Alors ils deviennent de plus en plus durs avec Jésus. Verset 11, Hérode, avec ses gardes, le traite avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Verset 12, il est écœurant. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils avaient été auparavant. Hérode renvoie donc Jésus à Pilate sans l'avoir condamné non plus. Hérode ne voit pas le problème avec Jésus, apparemment. Alors le problème revient donc à Pilate et redonne encore une fois un verdict positif concernant Jésus. Regardez verset 13, on est encore dans Luc 23. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort, je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Waouh, super! Pilate prend une très bonne décision pendant 2 secondes de relâcher Jésus. Je le relâcherai donc, verset 16 de Luc 23, après l'avoir châtié. Il n'avait aucune raison de le châtier, ça c'était juste pour plaire à la foule. Mais il décide de relâcher Jésus. Du moins, c'est ce qu'il dit, mais c'est du bluff! Il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de ses convictions, car il ne relâchera pas Jésus. Alors maintenant, il est coincé. Il y a la foule qui augmente et les Juifs qui augmentent la pression pour qu'il le condamne. Lui ne pense qu'il ne mérite pas la mort. Hérode ne pense qu'il ne mérite pas la mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, il a une autre idée. Verset 6, point 6, numéro 6. La coutume appliquée. La coutume appliquée. Alors là, on retourne dans Marc 15. Verset 6, regardez. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Alors là, Pilate, il est ingénieux, il trouve une solution qui pense va tout résoudre le problème. Puisque je ne veux pas décider, et puisque Hérode ne veut pas décider, alors que le peuple décide. Alors pourquoi est-ce que c'est une solution ingénieuse? Parce que Pilate était certain que la foule qui 3 jours auparavant avait acclamé Jésus comme Messie en arrivant à Jérusalem, rappelez, il est arrivé sur le dos d'un âne, toute la foule était là, Hosanna, Hosanna, le roi des Juifs. Il se dit, ben là, voilà, la foule va l'acclamer. Eh bien, il était convaincu que la foule ferait de même maintenant et le déclarerait innocent et indigne de mort. Certainement, la foule allait aussi innocenter cet homme. Donc, ce ne serait pas Pilate qui relâcherait Jésus, qui serait mal vu par les Juifs, ce serait la foule qui relâcherait Jésus et donc Pilate serait innocent. Et il ne serait pas en train de trahir les Juifs. Donc, verset 6, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. D'où vient cette coutume? Personne ne le sait. Moi, je me rappelle qu'on était à Paris, je ne sais pas s'ils le font encore, mais quand il y a un nouveau président français, ben, ils annulaient tous les PV, vous vous rappelez? C'est ce qu'ils faisaient. Alors les gens, quelques mois avant, ben, ils accumulaient les PV, et c'est vrai que le jour où le président devenait président, on annulait tous les PV. Alors ça date des rois à l'époque. Quand il y avait un nouveau roi, on annulait tout, on ouvrait les prisons, tout le monde sortait, on recommençait à zéro. Alors c'était ce genre de coutume ici. Alors bien sûr, les chrétiens étaient assez embêtés avec cette loi, d'accord, cette loi en France, parce que si tu avais un PV une semaine avant, tu la payais ou tu attendais une semaine pour ne pas la payer, parce que tu savais qu'elle allait être graciée. Le chrétien, il payait. Mais bon, ça c'est une autre question, d'accord. Quoi qu'il en soit, il décide d'appliquer cette coutume maintenant qu'il arrange bien, que la foule décide. 7. Le choix proposé. Le choix proposé, verset 7. Il y avait en prison un homme nommé Barabbas avec ses complices, un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Alors là, on est introduit à un nouveau personnage, Barabbas. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Le verset 7 nous le dit. Il a été arrêté pour sédition et pour un meurtre. C'est un assassin, convaincu. Il est en prison avec ses complices. Un révolutionnaire, un brigand, un assassin, un meurtrier. Alors Pilate demande donc à la foule, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En espérant qu'ils disent, « Bien sûr, relâche-nous le 1900 !» Verset 10, « Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. » Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset ? L'envie c'est quoi ? Littéralement le dégoût ressenti lorsqu'on voit quelqu'un avoir ce que l'on ne... Ah, je répète. Le dégoût ressenti lorsqu'on voit quelqu'un avoir ce que l'on ne veut pas qu'il ait. Je vois quelqu'un avoir ce que je ne veux pas qu'il ait. Les leaders étaient envieux de la célébrité de Jésus, des foules importantes qu'il attirait, des miracles qu'il faisait. Ils étaient jaloux. Donc Pilate sait parfaitement bien que le mobile des accusations contre Jésus n'était pas justice, mais envie et jalousie. De nouveau, Pilate aurait dû arrêter le procès. Mais il est lâche. Un homme sans nerfs. Donc, il met le choix devant la foule. Il s'est dit, bon, de toute façon, la foule, elle va bien choisir. 8. L'avertissement donné. Alors ça, c'est incroyable. Il vient de demander à la foule, écoute, foule, décide. Et là, c'est pas relaté dans Marc, mais c'est relaté dans Matthieu 27. Il y a un truc incroyable qui arrive. Matthieu 27 et le verset 19. Donc, je répète le verset 28 que je viens de lire dans Marc. « Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. » Écoutez bien. « Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Non, mais allez voir, là c'est un incident incroyable. C'est comme si Dieu est en train de donner une dernière chance à Pilate. C'est sa femme, la femme de Pilate qui intervient. Pilate est sur la plateforme d'où il siégeait pour le procès. Le procès est en train d'avoir lieu. Sa femme envoie un messager pour interrompre le procès, lui livrer un message important. Et que lui dit cet envoyé ? Qu'elle a eu un songe, un rêve. Et que dans ce rêve, elle a vu de quelle manière, précisément, nous ne le savons pas, mais pour elle, c'était clair et net que Dieu, dans ce songe, apparemment Dieu, lui révélait que Jésus était juste. Et donc innocent. Elle affirme avoir été troublée, avoir beaucoup souffert à cause de ce songe. Nous ne savons pas comment, mais elle est vraiment mal. Au point où elle envoie un messager pour le dire à son mari, pour lui dire, écoute, fais gaffe avec ta décision. Jésus est juste, il est innocent, fais gaffe. C'est exactement ce qu'elle est en train de dire à son mari là. Qu'il n'y ait rien entre toi et lui, laisse tomber l'affaire, ne le condamne pas. Voilà ce que sa femme lui dit. Moi, je trouve complètement fou que Pilate sait pertinemment que Jésus est totalement innocent et que sa femme le réaffirme. Neuf, la foule influencée. Je continue dans Matthieu ici. Matthieu 27, 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et dans Marc 15 et le verset 11, mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Alors pendant que Pilate est distrait, il écoute le serviteur lui relater ce que sa femme vient lui dire. Les principaux sacrificateurs, écoutez, ce sont les chefs religieux ici. Et les anciens excitent la foule. Matthieu nous dit qu'ils persuadèrent la foule. Comment, on ne sait pas. Mais ils réussirent à influencer toute la foule pour qu'ils demandent en unisson la libération d'un meurtrier Barabbas et de faire périr l'innocent Jésus. Franchement, c'est écœurant. Voilà. 10. la demande réitérée. On est nouveau dans Marc 15 et le verset 12. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate devient désespéré ici. Il sait que Jésus n'a rien fait de mal. Il sait qu'il ne mérite pas la mort. Et surtout pas par crucifixion. Nous voyons de plus que la foule ne donne même pas des raisons pour la demande. Ils haussent tout simplement le ton et le volume. Il n'y a pas de preuve, alors ils crient plus fort. C'est souvent comme ça dans les bagarres. On crie plus fort. Et c'est celui qui crie le plus fort qui gagne. Souvent et malheureusement. La Bible est claire sur l'innocence de Jésus. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Une petite perle, dans 1 Jean 3, 5, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Écoutez, mes amis, Jésus était sans péché. Et la foule crie, crucifiez-le. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi crucifier un homme sans péché ? Incroyable. 11, le geste improvisé. Alors là, mes amis, si vous n'êtes pas encore écœurés, vous allez tout voir. On retourne à Matthieu 27. La foule qui crie, qui crie, qui crie, crucifie, crucifie, crucifie. Alors je lis Matthieu 27, verset 23 en premier. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait ? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Cela vous regarde. Voyant que la foule devenait folle de rage, Pilate sait qu'il doit faire quelque chose. Mais quoi ? Allait-il céder aux demandes irraisonnables et non fondées de la foule influencée par les chefs religieux jaloux et envieux de Jésus et le faire crucifier ? Ou allait-il tout arrêter et juger de juste selon la loi romaine et selon sa propre conscience, Jésus, et donc le faire libérer ? Eh bien, Matthieu 27, 24 nous donne la triste réponse donnée par un geste symbolique lâche de la part de Pilate. Il utilise un rite juif, Deutéronome 21, 6 à 9, où face à un corps trouvé dans un champ, les principaux sacrificateurs devaient affirmer qu'ils étaient innocents de ce sang en se lavant les mains. Mais c'était pour un corps trouvé qui était déjà mort. Alors lui, il prend ce symbole avec un homme totalement innocent et juste devant lui, et il se lave les mains. Apparemment, quelqu'un vient avec un vase ou quelque chose et il se lave les mains en public. Et par ce geste, de manière visuelle, il veut que la foule voie. La foule. Et ce qu'il est en train de dire en se lavant les mains, je trouve cet homme innocent. Et par ce geste que je fais, je refuse toute responsabilité pour la mort de cet homme. Je suis innocent de la mort de ce juste. Mais vous vous rendez compte ? Je suis innocent de la mort de cet homme qui est parfaitement innocent. Il est en train de dire, je donne le OK pour crucifier cet homme, je sais qu'il est innocent, mais je me lave de toute responsabilité. Et pourtant, sa vie est dans mes mains. Il décide. J'en suis donc pour rien. peut-être la phrase qui est la plus horrible dans tout ce texte. Peut-être. Marc 15 et le verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Vous vous rendez compte, mes amis, ce n'est pas la justice qui prime ici. C'est le désir de plaire à la foule. 12. Le jugement de Dieu sollicité. Là, il y a encore un petit détail qu'on retrouve dans Matthieu qui est étonnant. Matthieu 27, 25. Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Je relis. « Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ça, c'est le point 12. Le jugement de Dieu sollicité. C'est une chose incroyable. Ça mérite tout un message. Pour une raison qui me laisse perplexe, ces gens ont dit, et en le disant, admettent l'innocence de Jésus, que le jugement de leur action injuste, celle de condamner un homme innocent à mort, et surtout le Fils de Dieu, retombe sur eux et leurs enfants. C'est quand même étonnant. Sans le réaliser, peut-être, ils prononcent une malédiction sur eux-mêmes et sur leur postérité. Ils rejettent ouvertement et délibérément le Messie et acceptent les conséquences de son rejet ce jour-là, mais aussi pour les générations futures. Et je me pose la question, est-ce que c'est la raison encore aujourd'hui pour laquelle tellement de Juifs ont de la peine à voir que Jésus, Juif, est le Messie? Est-ce que nous sommes encore dans la conséquence? Écoutez, j'ai des frissons à y penser là, franchement. Hein. Vous voulez venir toucher, vous pouvez. J'ai des frissons là. Mais c'est une chose incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore la conséquence de cette malédiction qui a été ouvertement sur eux-mêmes et leurs enfants? Mais quelle chose à dire! La haine contre Jésus était tellement grande, ils étaient prêts à dire ça, mais c'est incroyable. Là, j'ai des frissons, mais alors jusqu'aux pieds. Ça fait peur, ça. Franchement, ça fait peur. Écoutez, faites attention à ce que vous dites dans la vie. Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Ça, c'est quelque chose que... Excusez-moi. Ceci mène au point 13, la mort de Jésus prononcée, Marc 15, 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Pilate relâche Barabbas, qu'il sait être un assassin. Il condamne Jésus, qu'il sait être innocent. Il le fait battre de verge et le livre pour être crucifié. Alors, que se passe-t-il juste après? Quelle est la prochaine chose qui arrive? Et il faudra revenir dimanche prochain pour le savoir. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire maintenant. Mais vous savez ce que c'est? C'est sa crucifixion. Là, il est envoyé être crucifié. Et ça, c'est ce qu'on verra dimanche prochain. Alors, quelle leçon? quelles applications de ce texte? J'aimerais vous en suggérer trois, tirées de Pilate, et trois tirées de Jésus. Pilate était gouverneur. Il était donc un leader et un juge qui était censé être juste. Mais il était un mauvais leader. Voici trois leçons sur le leadership. Numéro un. Un bon leader fait ce qui est juste maintenant. Un bon leader fait ce qui est juste maintenant. Pilate savait que Jésus était innocent et qu'il ne méritait pas la mort. Dieu nous appelle à faire ce qui est juste, tout de suite, sans attendre et sans hésiter. Pierre 2, 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Si je souffre, je dois souffrir parce que je fais le bien. Et ne pas faire ce qui est juste maintenant veut dire que quelque chose d'autre que la justice a priorité dans ma vie. Si je dis non à la justice, ça veut dire que l'injustice prime dans ma vie. Ça, c'est grave. Et pour Pilate, c'était son pouvoir et sa popularité. Deux, un bon leader fait ce qui est juste même si ce n'est pas populaire. Pilate était une des rares personnes dans l'histoire qui a eu le privilège de passer du temps tête à tête avec le Fils de Dieu. Mais au lieu de capituler à l'amour du Fils de Dieu, qu'il savait être innocent, il a capitulé aux Juifs assassins et à la foule. Faire ce qui est juste, écoutez bien mes amis, ne te rendra peut-être pas populaire avec la foule. Surtout quand tu suis Jésus-Christ. Mais cela plaira à Dieu et tu auras une conscience claire. Et Dieu te bénira pour ça. 3. Un bon leader fait ce qui est juste même si cela rend la vie plus difficile. Y aurait-il des situations qui feraient qu'un chrétien choisirait de ne pas faire ce qui est juste? Ben je pense, ça peut arriver, oui, pour des raisons égoïstes. Je donne des exemples classiques. Est-ce que je veux être juste et honnête par rapport à ma déclaration d'impôt? Ben, si je ne suis pas honnête, j'aurai plus d'argent pour moi. C'est égoïste. Ou est-ce que je suis juste quand je fais des affaires avec les gens? Ou est-ce que je trouve une situation, travaille au noir? Parce que si je peux trouver une situation, bah, ouf, je gagne plus. Il y a plein de tentations à être injuste pour un profit personnel. Ça, c'est très facile dans la vie. Voyez-vous, si faire ce qui est juste me coûte trop, alors je vais tenter de compromettre. Mais Jésus nous a dit quoi? Viens, suis-moi et porte ta croix. Voilà ce qu'il nous a demandé de faire. Faire ce qui est juste peut coûter très cher. Et Pilate, tristement, a renoncé à faire ce qui est juste, car cela lui aurait coûté trop. Mais quelle stupidité! Il a quand même perdu son trône et il s'est suicidé plus tard. Apprenons, mes amis, à faire ce qui est juste. Et voici trois leçons tirées de l'exemple de Jésus. Numéro 1. Par son exemple, Jésus instruit ses disciples sur quel sera leur possible sort. C'est intéressant que sur les 12 disciples, Judas s'est suicidé, un a été exilé et 10 ont été martyrisés pour leur foi. Ça veut dire que 11 sur 12 ont été persécutés pour leur foi. Alors certes, pendant leur vie, certains ont vu d'occasionnelles délivrances par le Seigneur, on est d'accord. Jésus ne nous dit pas en fait d'attendre la délivrance. Jésus nous apprend qu'il faut avoir un bon témoignage lorsqu'on est persécuté. Dans Jean 15, 20, il dit « Ils m'ont persécuté et ils vous persécuteront aussi. » L'exemple de Jésus est clair. Si tu veux suivre Jésus vraiment, alors il faut t'attendre à une réelle persécution. Alors tu dis « Ouais, mais John, ça ne nous arrive pas. » C'est vrai, par la grâce de Dieu, nous avons été évités pour l'instant la persécution qui c'est l'avenir. D'après ces textes, j'ai presque l'impression que nous vivons l'exception et pas la norme. Donc, par son exemple, Jésus instruit ses disciples quel sera leur possible et probable sort. Et lui, il était parfaitement juste. Deux, par son exemple, Jésus nous apprend comment nous comporter. C'est intéressant que Jésus répond aux questions pertinentes, mais refuse de répondre à des accusateurs tordus et assassins qui ne cherchent pas la vérité. Nous devons être sages et nous devons savoir comment et quand répondre. Alors dans 1 Pierre 3,15, il est dit ceci. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc lorsque je réponds et que j'annonce Christ à quelqu'un, je me défends avec douceur et respect devant quiconque me demande raison de l'espérance qui est en moi. Mais Jésus nous donne un autre exemple que parfois il faut rien dire. C'est encore plus sage de ne rien dire. À d'autres, il ne faut pas répondre. Récemment, j'étais avec quelqu'un que je connais, hostile à la foi. Et quand cette personne m'a vu, elle a commencé à se moquer de moi, le petit rire, le petit sourire. Et en l'écoutant, bon, j'étais très calme, j'écoutais, grand sourire. Mais je pouvais répondre à chacune des accusations, des moqueries qui m'étaient lancées. Et j'étais prêt à dégainer tout en moi. J'aurais pu, avec un canon d'évangile, l'écraser, quoi. Mais je savais qu'il ne voulait pas entendre. Je savais que ça ne servait à rien. Je savais que ça allait provoquer une hostilité. Donc j'écoutais, j'ai rien dit. Oh, ce que c'était dur pour un gars comme moi, si vous saviez. Oh là 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 là. Parfois il faut répondre et parfois il ne faut pas répondre. Troisième leçon, nous devons nous rappeler que la persécution et la mort ne sont pas la fin. Dimanche prochain, on va voir la crucifixion de Jésus. Il sera crucifié quelques heures plus tard. C'est vrai que les disciples ont été fortement affectés par sa mort, mais la mort n'a pas été la fin. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché qui a provoqué la mort. Et les disciples se sont vite souvenus que ce n'était pas la mort, et par sa mort, que le pardon des péchés a été offert et que la vie éternelle a été offerte. Dans la souveraineté et la providence de Dieu, cette injustice a dû avoir lieu pour qu'il meure et qu'il ressuscite, et qu'il vainque la mort, qu'il vainque le péché, et qu'il puisse nous accorder le pardon des péchés. Amen. Ça, mes amis, ça, c'est là, le christianisme biblique. Nous prêchons la résurrection, mais il fallait qu'il passe par la mort. Et donc, mon ami, pour celui qui connaît Christ comme Sauveur et Seigneur, il peut dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous avons une présentation d'enfants. Parents, enseigne à tes enfants l'importance de faire ce qui est juste et de ne pas faire comme Pilate. Et enseigne à tes enfants que Jésus est mort pour eux. Il est mort afin de leur accorder gratuitement le pardon des péchés et la vie éternelle. Amen. Seigneur, quelle grâce tu nous fais. Quelle grâce tu nous fais. avoir subi tout cela pour nous. Seigneur, nous ne pouvons que nous humilier devant toi, tout petit, et te dire merci. Seigneur, nous sommes tous indignes de cet amour que tu nous donnes. Pourquoi tu as offert ton Fils pour se sacrifier pour nous, Seigneur? Nous ne comprendrons vraiment jamais cet amour. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est la promesse de notre résurrection, Seigneur, merci. Si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas Christ, qu'aujourd'hui soit le jour où ils disent oui. Oui, Jésus, pardonne mon péché. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Et pour les chrétiens, Seigneur, qui te connaissent déjà, peut-être nous avons été bousculés parce que nous avons entendu ce matin. Peut-être nous compromettons dans certains domaines. Seigneur, aide-nous à ne jamais souffrir pour le mal, mais que pour le nom de Christ. Au nom de Jésus. Amen.